du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 716 du Coq à l'âne avec deux coqualiens aujourd'hui. Bruno André, Jean-Claude Héron, messieurs, bonjour.
Bonjour.
Et alors, une coqualienne, c'est Laetitia Allemand qui est avec nous. Salut Laetitia.
Bonjour.
Ça va bien?
Laetitia, oui, le retour.
Oui.
Ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps que j'avais pas été avec Bruno. Je viens de temps en temps, mais tous les deux, ça fait très longtemps.
Et ça fait plaisir.
Et Patricia Vincent qui est avec nous.
Bonjour.
Alors, approche-toi bien du micro.
Je m'approche du micro.
Voilà, qu'on t'entende bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Patricia, est-ce que tu vas m'accuser de misogynie si je te demande si ta défaite au départemental est digérée?
Non, c'est pas misogyne du tout. Ah bah je peux répondre, alors. Même elle est parfaitement digérée, tout va bien.
Vous vous doutez pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que j'étais un petit peu saoulé le week-end dernier par les réactions des supporters de Valérie Pécresse qui n'ont rien trouvé de mieux comme argument de défense de leur championne de parler de misogynie à la suite de la prestation, on va dire, moyenne de la candidate DLR à la présidence de la République. Niveau argument, comme disait Cyrano, c'est un peu court, jeune homme. Bref, de nombreux observateurs, journalistes, chroniqueurs, politiques ont qualifié ce qui devait être le lancement de la campagne de la candidate DLR de naufrage. J'ai fait un petit montage. Pas sympa, mais je vous ai fait un petit montage quand même.
Du tout.
Pas sympa.
Nous sommes devenus le pays des victimes oubliées.
La France a peur.
La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici.
Alors je serai indéfectiblement au soutien de nos forces de l'ordre.
Ouais !
Camarades, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, voilà.
Il a raison.
Oui, monsieur Molière au Panthéon. Et avec lui, Sganarelle, Scapin et Célimène.
Célimène, passe nos journées à s'en passer.
Je suis une femme d'ordre. Je veux la France en ordre.
Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.
Voilà.
Génial. Ouais.
Bon, visiblement, ça s'est pas très bien passé, ni sur le fond, ni sur la forme. Pour la forme, bon, c'est rien de le dire, que Valérie Pécresse est... Enfin, disons, les prises de parole à la tribune, ça n'a pas l'air d'être sa tasse de thé. Alors, on parlera du fond tout à l'heure. Mais restons sur la forme. Pourquoi, selon vous, y a-t-il eu autant de critiques sur la forme? La parole est à la défense, donc mesdemoiselles, hein, c'est vous qui allez les défendre. Laetitia, Patricia, qui prend la parole en premier?
Écoute, moi je peux faire valoir les arguments de ces défenseurs que j'ai entendus, que tu as dû entendre comme moi sur les radios, ou, qui ont dit, et ça pour avoir fait de la télévision, je peux témoigner un peu là-dessus, que l'exercice du meeting est un exercice différent et qu'on nous demande aujourd'hui, on demande aux politiques de mixer un peu les deux. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont face à une salle, qui doivent chauffer, etc., qui demandent qu'on emploie un ton particulier. Et par ailleurs, c'est retranscrit, enfin c'est diffusé en direct à la télé et donc ça crée un décalage. Et notamment des blancs, des choses comme ça. Donc après, moi je sais pas parce que je n'étais pas dans la salle, mais Franck Louvrier, par exemple, ou d'autres, le maire de Meaux, Jean-François Copé, disaient que dans la salle, le ressenti était très différent de ce que nous, téléspectateurs, avons pu voir. C'est un argument voilà, que je ne peux pas faire mien complètement parce que je n'y étais pas, mais je peux en tout cas la défendre sur ce point.
Essayer de trouver une explication.
Essayer de trouver une explication rationnelle.
Mmh. Patricia.
Oui. Oui, moi j'ai entendu aussi ce que dit Laetitia, même je crois que Valérie Pécresse en est expliqué en disant qu'il y avait effectivement ce décalage, tu as l'habitude Laetitia, ce décalage entre le son qu'on a quand on est spectateur, téléspectateur, et quand on est dans la salle. Moi, je pense que y a des politiques, hommes et femmes, qui sont de grands orateurs. Il y en a qui n'en sont pas. Bon, donc ça n'aura échappé à personne que Valérie Pécresse n'est pas une grande oratrice. Dans un autre style, tout à fait différent. Et si on veut parler d'un homme qu'on aime bien Jean, ou pas, Jean-Luc Mélenchon, c'est un orateur. Et ça, moi, pour le suivre depuis 30 ans, parce que je m'intéresse à la vie politique, c'est un orateur, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il tient une salle. Bon, Valérie Pécresse n'est pas une grande oratrice. Donc de dire que sa prestation n'a pas été bonne, oui, c'est vrai qu'on n'est pas le retour son de l'ambiance de la salle. Voilà, est-ce que c'est
misogyne, sexiste?
Non, je crois pas. Je crois que ce qui est un tout petit peu misogyne, à mon avis, c'est quand même un petit peu... Petite pointe de sexisme, c'est qu'on en a fait longtemps. Enfin, ça a duré longtemps l'histoire. On a débattu pendant 3 jours. Elle n'a pas eu le bon ton, elle a eu le bon ton. Bon, elle n'a pas été bonne. Sa prestation n'était pas celle d'une grande oratrice. Point barre, on passe à autre chose. Là, est-ce qu'on en aurait fait autant avec un homme qui n'est pas très très bon? Moi, je ne suis pas sûre que Xavier Bertrand, ça chauffait une salle, par exemple. Hein. On l'aurait trouvé moyen, mais on n'aurait peut-être pas dit autant. Ceci dit, bon, faut reconnaître que sa prestation n'était pas géniale. Quoi.
Est-ce que l'erreur de départ, c'est pas d'avoir fait de ce meeting l'alpha et l'oméga de la campagne électorale?
Absolument.
De Pécresse? C'est pour ça que ça a duré 3 jours, parce qu'on nous a bassiné pendant 2 jours avant le meeting que ça allait être le meeting de
ça devait être le lancement.
Le lancement, ouais. Ça allait être quelque chose d'extraordinaire. C'est nul de pratiquer comme ça. Je veux dire, une campagne électorale, moi j'en ai fait 5, je sais de quoi je parle. Bon, j'ai pas fait des meetings avec des milliers de personnes, mais tous les actes quotidiens qu'on mène dans une campagne sont importants. La rencontre avec les gens, les meetings, c'est important. Les débats, c'est important. Le passage dans les radios et les télés, c'est important. Tout est important. L'erreur de l'équipe de Pécresse,
c'est
d'avoir voulu dire, nous faire passer ce message, vous allez voir ce que vous allez voir, ce meeting, ça va être extraordinaire. Malheureusement, ben, elle a eu des problèmes manifestes avec le prompteur. Les prompteurs, elle en avait 2 de prompteurs. Donc c'est très compliqué à lire. Le problème, c'est que dès que tu es décalé sur les prompteurs,
une certaine gymnastique,
il faut passer à la suite, ouais. C'est pas facile. Et l'erreur que font...
Pourtant, elle a été coachée. Hein.
Oui, mais l'erreur que font beaucoup de candidats dans Pécresse, mais il y en a d'autres, c'est qu'ils sont derrière leur pupitre et ils sont figés derrière leur pupitre. Tu parlais de Macron, Macron il fait pareil aussi, mais Mélenchon ou Macron, eux, ils sont pas derrière leur pupitre. Ils bougent. Ce que faisait Ségolène Royal, on
pareil,
en parlait tout à l'heure.
On en parlait, exactement.
Elle n'était pas derrière un pupitre à lire ses notes. Elle se baladait sur la... Comme fait Mélenchon, comme fait Macron, comme font certains bons orateurs.
Ouais.
C'est pas le cas de Pécresse. Donc, elle est en difficulté. Mais fallait pas faire l'erreur de faire de ce meeting l'alpha et l'oméga de la campagne électorale.
Bruno ?
Non, mais moi, je crois qu'elle est... je l'ai déjà dit, hein, je pense qu'elle est victime du poids de son parti. Et on lui demande... parce qu'il y a des coachs en communication, des coachs en gestuelle, et on lui demande de changer son attitude, et du coup, elle n'est plus du tout elle-même. Elle est complètement stressée, je veux dire, on lui demande de lever les bras, ben elle lève les bras, on lui demande d'avoir tel ton, ouais. Mais c'est pas elle, et c'est pas elle. Et comme le disait Patricia Vincent, quand, à partir du moment où elle ne maîtrise pas, où elle c'est pas une grande oratrice, ben elle se plante, elle aurait pu réussir, mais là, elle s'est plantée. Bon, ben voilà, moi, je pense que aujourd'hui, je rejoins ce que tu disais, c'est que les dernières élections se sont peut-être jouées sur un meeting réussi, sur une petite phrase, vous rappelez, moi président, tu vois, ce genre de choses.
Ça, c'était pendant le débat.
Voilà.
Mais c'était important.
Et c'était important, et ça a eu des répercussions importantes. Mais les républicains, à mon avis, n'ont pas fait le deuil de leur défaite de 2017 avec leur candidat. Fillon qui aurait dû se retirer, etc. On ne va pas refaire le débat. Et du coup, ils mettent une pression sur leur candidate et qui n'est pas vraiment légitime, comme je disais l'autre fois, puisqu'il y avait quand même une certaine égalité. C'était serré, quoi.
Ça s'est joué à un poil.
Donc,
hein.
Du coup, elle est obligée de composer avec tout le monde et elle n'a pas la liberté.
Alors, on est plus sur le fond. On en parlera du fond après.
Mais elle a peut-être aussi le problème de ne pas avoir la liberté d'être elle-même.
Ouais.
Ben oui, elle passe pour quelqu'un qui est un petit peu bourgeoise, un petit versaillaise, etc.
Ouais.
Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de changer
comme
son
Hidalgo,
image en quelques semaines.
Ouais, ouais.
Oui, c'est ça. Moi,
Laetitia.
Je pense que c'est effectivement, je suis complètement d'accord avec Bruno, les téléspectateurs ont senti ce manque de cohérence. On lui a demandé de jouer un personnage qu'elle n'est pas. Et on sait que que dans les campagnes, ça n'est pas bon. On a vu Juppé quand on lui a demandé de faire, de jouer au ping-pong pour faire popu.
Ah
ou,
oui, avec les, avec les, avec le verre.
De prendre le métro, ces images dont tout le monde se souvient. Ouais. Dès qu'on change un peu la personnalité des gens pour les faire coller à des supposées attentes, bah ça, c'est vrai que ça complique la chose.
Tu as complètement raison, Patricia. Je pense que l'erreur, elle est là.
Non, pas Patricia, Laetitia.
Laetitia, hein, Patricia, elle est à ma gauche, oui, Laetitia à ma droite. Oui, excuse-moi. Oui, tu as complètement raison.
Et ça, Jean-Claude connaît encore sa gauche et sa droite. C'est ouais, pas
mal. Je suis centriste.
Et pourtant, ça
ne
s'était pas gagné.
Je suis devenu centriste.
C'est la main gauche, c'est celle où tu as le pouce à droite.
Ouais, ouais. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on lui a demandé de jouer un personnage, tu as tout à fait raison, et ce personnage, c'est pas elle. Elle, voilà, elle est bourge, quoi. Elle est bourge, on va dire le contraire. Elle peut pas devenir une candidate des quartiers du jour au lendemain, voilà. Il faut qu'elle soit elle-même. Moi, si j'ai un message à lui faire passer, c'est qu'il faut qu'elle soit elle-même. Elle joue pas un rôle. Elle est elle-même, elle doit s'affirmer comme étant ce qu'elle est,
alors,
point.
Il y a eu des...
Et encore mieux, c'est une femme.
Y compris sur la forme.
Il y a eu beaucoup de critiques, évidemment. Hein. Et il y en a aussi dans l'opposition qui sont venus et qui sont montés au créneau pour la défendre. Et c'est le cas de Marlène Schiappa, écoutez.
Et sur la forme, vous me permettrez pour une fois de prendre un petit peu la défense de Valérie Pécresse. J'ai trouvé que les commentaires étaient très durs. Et je trouve que sur la forme, on en attend toujours beaucoup plus des femmes en politique que des hommes. Et j'ai trouvé qu'en général, quand il s'agit de femmes politiques, que ce soit Valérie Pécresse, mais Anne Hidalgo ou d'autres, on concentre les commentaires et les analyses sur des questions de forme, de voix, d'attitude, etc., et beaucoup moins sur le fond. Moi, je suis un petit peu gênée par ça, parce que sur le fond, j'ai beaucoup de désaccords avec Valérie Pécresse, et j'aimerais qu'on puisse en débattre, et je trouvais effectivement que c'était certains commentaires étaient un peu sexistes, dans la mesure où c'est ce double standard, on en attend toujours plus de la part des femmes.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Valérie Pécresse l'a dit sur BFM TV hier soir, il y a un phénomène médiatique machiste qui se met en place dans cette campagne ?
Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, en fait, c'est ce double standard. C'est-à-dire, il y a une présomption, et beaucoup de sociologues l'ont analysé avec brio, il y a une présomption de compétence pour les hommes et une présomption d'incompétence pour les femmes. Sur un plateau de télévision, quand vous voyez arriver un homme avec un costume et une cravate, et de surcroît, s'il a un certain âge, vous dites, c'est sûrement un expert de quelque chose. Et si vous voyez arriver une femme, et si de surcroît, elle a des bijoux, du maquillage, les cheveux longs, des signes de féminité, le réflexe, c'est de se dire qu'elle n'a pas sa place ici et qu'elle n'est probablement pas experte. C'est ce qu'on appelle la présomption d'incompétence pour les femmes. Et ça, c'est vrai pour toutes les femmes dans la vie politique.
Alors, présomption d'incompétence.
Moi, je pense qu'il y a un problème forcément un peu de compétence. C'est vrai qu'on attend. Enfin, le procès en incompétence est quand même, d'une manière générale, il est un petit peu fait. C'est-à-dire qu'un homme, par nature, on va dire, il est compétent. Et une femme, il faut qu'elle prouve qu'elle soit. Je caricature un peu mon propos, mais on le ressent quand on est élu, on le ressent quand même un peu. Il faut un peu faire ses preuves. Mais on est dans des codes aussi politiques qui sont faits par les hommes, qui ont été faits par les hommes pour les hommes. Donc il faut que tout ça s'aère un peu et que les femmes aussi prennent à un moment le problème bras-le-corps et s'imposent. Après, venant de Marlène Schiappa, moi je me permettais quand même un petit truc. Elle n'a pas trouvé M. Darmanin l'autre fois sexiste, quand même, ma petite madame, calmez-vous, tout va bien se passer. Mmh. Et là, elle trouve que donc. Donc je pense que Marlène Schiappa n'est peut-être pas la mieux placée pour donner des cours de sexisme, etc. etc. C'était ma petite parenthèse perso. Ça.
Bah, oui, contre, mais enfin là, elle était venue pour l'aider. Hein. Elle n'était pas venue pour la critiquer.
Oui, mais... Par contre, moi je pense quand même que l'on a trop souvent tendance, et ça, c'est sexiste, à juger les femmes sur leur tenue ou autre.
Oui, c'est vrai.
Alors, ça, c'est. Et moi, je trouve. J'ai jamais entendu. C'est lui, il avait un costume qui lui va pas.
Oui, oui.
Il a une cravate qui est mal choisie.
Si.
En rarement.
Oui. Jack Lang. La première fois qu'il s'est pointé à l'Assemblée avec son col Mao. Qu'est-ce qu'il s'en est pris, hein.
Et Jadot qui se présente sans cravate.
Ça, c'est différent.
Il a été critiqué aussi.
Ça, c'est différent.
Mais les réflexions, quand même, sur la tenue, moi, je suis persuadé qu'elles sont plus importantes au niveau, enfin elles sont plus critiquées au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Et ça, c'est pas normal.
D'ailleurs, on se pose la question.
Et
pardon, excuse-moi, quand je te coupe. On se pose la question de savoir parfois comment on va s'habiller. Alors que quand on va soit dans une réunion, soit dans un truc public, où on sait que. Donc c'est inconscient même chez les femmes.
Oui, on a intégré ça.
Je
ne sais
pas si c'est arrivé,
oui.
Ça m'est déjà dire ah, bon, attends, là, je ne vais peut-être pas mettre ça parce que nana. Mmh. Donc tu as complètement
parce que je
raison.
Sur la tribune,
t'as complètement raison. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et il y a une chose aussi qui m'a choqué et qui, je trouve, sexiste aussi, c'est quand dans la presse, il y a 15 jours, je crois, il y a eu une polémique sur. Mais que va faire M. Pécresse si elle est élue? Mais est-ce qu'on pose la question à toutes les conjointes des candidats hommes?
Bah, il fera le prince consort.
Non, mais Thierry, tu comprends?
C'est, oui, moi, je trouve que c'est pas normal. Mais Bruno, à la fois, tu as raison, et à la fois, c'est pas totalement anormal. On est une
pourquoi
société
on ne le dit pas pour les autres candidats?
On est une société patriarcale. Qu'on le veuille ou non, on a ça, et c'est notre héritage. Donc, moi, je pense que les choses, elles vont évoluer positivement. J'ai envie d'être positif. Et je pense que les femmes, une femme aujourd'hui peut tout à fait être présidente de la République, aussi bien qu'un homme, comme
évidemment.
Premier ministre.
Pourquoi on pose
moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Parce que...
Et moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Mais je trouve que ce n'est pas normal qu'on en parle. Ou alors, on dit, mais que va faire Mme Macron? Que va faire Mme Mélenchon?
On en parle beaucoup de Mme Macron.
Ils font les pièces jaunes.
Ouais, c'est vrai.
Ils font les pièces jaunes.
On se pose toujours la question quand même du statut du conjoint... Qui est mal défini
ben
aussi,
oui.
Ce statut de première dame.
C'est compliqué, c'est compliqué.
Je sais que tu vas aborder la question. Je te passe un peu le relais parce que la forme, ça, honnêtement, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la forme.
Eh bien, allons-y
c'est
sur le fond.
Le fond.
Allons-y.
C'est les idées qui sont portées. Parce que si on passe trop de temps sur la forme, on tombe dans une forme de piège.
On y va sur le fond. Éric Ciotti, interviewé chez. Apolline de Malherbe.
J'ai laborieux, stéréotypé, raide, mais aussi en on, hein, puisque ceux qui étaient au premier rang ont entendu, par exemple, Nadine Morano dire pendant des silences, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Hervé Morin, le patron des centristes, dire à haute voix, mais accélère Valérie, accélère, pendant les moments de silence. Un sénateur qui a dit, quand la foule a applaudi, mais parle, s'adressant à Valérie.
Je sais pas d'où viennent ces phrases, en tout cas, personnellement, j'étais au premier rang, je ne les ai pas entendues. Moi, je me suis retrouvé...
Accélère Valérie.
Je me suis retrouvé totalement dans le discours de Valérie Pécresse. C'est important. J'ai porté une ligne au Congrès qui a obtenu 40% des suffrages au second tour. Et cette ligne, elle était fortement exprimée.
Et cette ligne était fortement exprimée. Ah ben là, c'est sûr. C'est d'ailleurs ce qui, visiblement, en a fâché quelques-uns chez les LR. C'est toujours les deux tendances au sein du parti. On en parlait. La tendance très à droite avec Éric Ciotti. La tendance plutôt modérée avec Xavier Bertrand. Alors, j'ai repris les passages qui ont fâché un petit peu.
Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Je veux qu'ensemble, nous retrouvions le contrôle de cette immigration débordante qui débouche sur la création de zones de non-France. Je veux faire des Français de cœur et pas des Français de papier.
Donc voilà, le grand remplacement, elle l'a cité. Bon, ça en a tenu quelques-uns, ne jamais reprendre une rhétorique de ses adversaires, même si elle ne fait que citer cette théorie complotiste, ça a semé un peu le trouble dans ses rangs. Et pourtant, je voudrais revenir sur ce qu'elle avait dit pendant les débats, c'est-à-dire pendant la primaire, vous vous en souvenez, elle avait dit ceci sur le fameux grand remplacement.
Moi, je vais vous expliquer pourquoi je déteste cette expression. Je déteste cette expression parce qu'elle donne le sentiment que tout est foutu. Elle donne le sentiment qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis, il ne se passera rien.
Bon, donc, elle n'a fait que citer le grand remplacement. Ça a troublé quand même. Mais néanmoins, on était quand même sur une ligne assez à droite.
Elle a quand même opposé les Français de papier
exactement.
Et les Français de souche.
Voilà. Donc, c'est là-dessus. C'est sur le fond que je voudrais qu'on parle maintenant.
Elle est sur la position de Zemmour.
Est-ce qu'elle est partie pour draguer un peu trop à droite?
Moi, je pense que c'est toute sa difficulté, c'est qu'elle se retrouve, elle fait grand écart en permanence, si je puis me permettre comme expression.
Elle n'a pas le choix.
D'un côté, il y a Michel Barnier ou Xavier Bertrand qui représente une droite modérée. Ouais. Et puis de l'autre côté, on a effectivement des personnalités comme Éric Ciotti qui sont plus proches quand même de Zemmour et Marine Le Pen le paysage politique. Donc, elle est en permanence en train de faire un aller-retour entre les deux et de concilier l'inconciliable parfois. Et ça explique d'ailleurs, si on regarde le Rolling, moi j'essaie de le suivre de temps en temps quand je peux, le Rolling sur LCI. Donc, tous les jours, on voit bien l'évolution. Là, les courbes se croisent avec celle de Zemmour parce qu'à un moment, on préférera toujours l'original à la copie. Et elle a vraiment du mal, et c'est le problème des LR actuellement, je pense, hein, oui. L'éclatement de ce parti, c'est qu'elle a du mal à trouver le juste milieu.
Faire la synthèse d'idées absolument. Qui sont quand même très différentes.
Absolument.
De courants qui, au sein des LR, sont quand même très différents. Quoi.
Et ça vient du résultat de la primaire. Si la primaire avait été plus tranchée, elle aurait à mon avis, les mêmes.
Plus de légitimité pour affirmer sa ligne à elle.
D'où le danger des primaires.
Et moi, je pense que c'est beaucoup plus grave ce problème de fond que le problème de la forme.
Oui, dont on est d'accord.
Bien sûr.
Et on devrait beaucoup plus en parler du problème du fond que de la forme.
Parce que le fond, là vraiment, moi ce qui me gêne, c'est que moi j'ai souvent dit à cette antenne, et je le redis, je fais la différence entre la droite républicaine, la vraie droite républicaine, moi avec lequel j'ai aucun problème avec la droite républicaine, passer des démocrates. C'est des républicains. Par contre, j'ai un énorme problème avec la droite non républicaine, dont Le Pen, dont Zemmour, dont une partie des républicains. Et là, il y a un vrai problème. Ça veut dire que si on analyse sur le fond, elle n'a aucune chance d'être élue. Pécresse, je ne veux pas être... elle n'a aucune chance, parce qu'elle est complètement...
Si elle va se battre sur le même...
terrain que Zemmour, c'est compliqué.
Elle n'a pas d'espace.
Mais en même temps, en interne, comme le rappelle Éric Ciotti, c'est 40%, il représente 40%. Donc du coup, elle peut difficilement s'abstraire de ce contexte-là.
C'est 40% de 120 000 adhérents.
Oui.
Oui, non mais...
Bon, à peu près, quoi. 120 000 votants.
Oui.
Et donc, ça ne représente pas forcément toute la France.
La plus belle preuve de cette dérive, c'est que dans les boîtes aux lettres aujourd'hui, le tract de Valérie Pécresse, c'est mettre de l'ordre dans la rue. Les Français n'ont pas été protégés. L'insécurité et l'impunité ne sont pas des sentiments, mais bien une réalité. Vous ouvrez, à l'intérieur, vous avez « La peur changera de camp ». C'est un document de campagne qui ne parle que de ça.
Ouais.
C'est 4 pages.
Moi, je préférerais...
Ça montre bien qu'il y a une vraie... Ils ont vraiment envie d'aller travailler sur ce terrain-là. Hein.
Moi, je préférerais avoir un dépliant sur l'économie de la France et les grands objectifs. Ouais. Ça, c'est sûr que, c'est un travers de cette élection. Je pense que trop souvent, on déplace le projet, le problème et le discours de la présidentielle sur les gens comme Marine Le Pen, Zemmour, etc. Et que les gens disent, c'est là qu'il y a un réservoir de voix. Ils n'ont peut-être pas le courage de dire, luttons contre l'extrémisme et travaillons sur l'avenir de la France.
Il y a quand même des sujets.
Parce qu'il va falloir quand même un sujet que Macron n'est pas en campagne aujourd'hui, mais quand même il va falloir
déclaré.
Qu'il s'explique. C'est le quoi qu'il en coûte, il va falloir quand même faire le bilan. Ouais. Faire le bilan de son quinquennat, parce que il a lâché de l'argent et il a bien fait à un certain moment, mais je ne suis pas sûr qu'il a amélioré les finances de la France. Donc tout ça, il va falloir en parler. Moi, je préférerais qu'on ait discours là-dessus.
De façon générale, moi, ce qui me choque un peu dans cette campagne, enfin en tout cas qui me marque, qui m'interpelle, c'est que l'agenda politique et l'agenda médiatique, et c'est l'extrême droite qui a la main complètement dessus. Oui. C'est eux qui imposent les thèmes de campagne et les autres courent derrière en permanence.
Absolument.
Et cela depuis le début, depuis cette candidature inopinée et imprévue un petit peu de Zemmour. Et d'autre part, je pense aussi que Valérie Pécresse a un autre souci, c'est qu'il y a tout le centre-droit des LR qui part chez Macron. Parce que Macron est un candidat de centre-droit libéral. Donc, du coup, elle se retrouve un petit peu dépossédée de ce qui pourrait équilibrer son discours. Et du coup, elle est effectivement à la traîne des forces politiques actuellement d'extrême droite qui occupent la scène. Et tant que Macron ne rentre pas dans l'arène, alors je ne sais pas s'il fait bien ou pas d'attendre. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit un bon truc d'attendre.
On s'est posé la question.
Ils occupent énormément l'espace politique, comme le dit Laetitia, avec des idées qui influent. Et Valérie Pécresse, avec un parti de droite républicaine, je rejoins Jean-Claude là-dessus, une partie qui est siphonnée, si je puis dire, par Macron et attirée par Macron, qui est un candidat de centre-droit libéral, du coup, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, si ce n'est courir sa course à l'échalote derrière l'extrême droite. Hein.